Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Et je suis content de compter parmi vous plusieurs comme des amis que j'apprends à connaître et avec qui j'apprends à partager ma vie. Et ça va être le thème que nous allons développer dans cette nouvelle saison. Commençant l'année dans la prière, nous voulons continuer dans toute une saison où nous voulons bâtir une communauté parce que nous voulons toucher le cœur de Dieu avec passion et toucher notre génération avec compassion. Mais le lien, c'est quand nous sommes une communauté solidaire, quand l'amour est là, quand nos relations sont fortes. Alors c'est tellement facile de devenir un lieu d'ouverture et d'accueil parce que quand nous nous aimons et que nous sommes animés de la même passion, nous pouvons faire une différence dans la vie de multitudes. Béni soit Dieu. Donc ce matin, 10 clés pour bâtir de saines relations. On va revenir sur ce PowerPoint. Merci beaucoup. Pour quelle raison, c'était vraiment ma question, pour quelle raison l'Église sans frontières choisit de faire une priorité des GPS? La raison, c'est parce que nous voulons, à l'Église sans frontières, vivre comme une communauté solidaire. Nous voulons plus que les individus se sentent tout seuls. Mais pour nous, les GPS, c'est plus qu'une réunion. C'est un groupe de personnes qui vont partager une période de leur vie pour apprendre à devenir disciples de Christ. Comment Jésus a-t-il fait pour former des disciples? Il ne leur a pas dit « réunion mercredi et dimanche toutes les semaines ». Il a pris un groupe d'amis. Il les a fait vivre ensemble pour qu'ils partagent une période de la vie pour devenir ensemble disciples de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas devenir disciples de Jésus seul à seul. Les cours par correspondance vont t'aider à apprendre des choses sur Jésus, mais c'est seulement lorsque tu mélanges ta vie à celle des autres que tu deviens un disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas devenir disciple juste en apprenant des choses sur Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à vivre des choses les uns avec les autres. Et c'est cela le secret et la force des GPS. J'ai une question pour nous ce matin. Dieu est-il suffisant pour te combler? Oui, ça sonne très spirituel, mais en réalité, Dieu dit lui-même que non. Dieu dit lui-même que non. Je connais un homme qui était dans la parfaite présence de Dieu. Dieu lui parlait tous les jours. Il vivait dans un environnement pur, pas de pollution, réconcilié avec tous les animaux, vivant sans aucun souci financier. Et son esprit était comblé de la présence de Dieu qui venait tous les soirs lui parler. La révélation ouverte. Consulter Dieu, très facile, c'est Dieu qui appelle. C'est lui qui paye la communication. C'est lui qui venait vers cet homme. À propos, il s'appelait Adam. Et Dieu dit, tout est très bon chez Adam, mais une chose n'est pas bonne. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Malgré l'environnement spirituel le meilleur que nous pourrions trouver, Dieu nous a créés de façon à ce qu'il ne soit pas suffisant pour nous. Il nous a créés avec une portion de nous-mêmes qui a besoin d'être comblée par nos semblables. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas insulter Dieu que de dire « Dieu ne me suffit pas ». C'est être d'accord avec Dieu qui dit « Quand bien même ma présence te remplirait, je t'ai créé relationnel afin que tu dépendes aussi de tes semblables. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je le redis, parce que je l'ai dit déjà deux, trois fois, ne croyez pas que ce texte ne concerne que le mariage. Des gens imaginent solutionner leur problème de solitude par le mariage. Ensuite, ils sont deux à être seuls. Parce que le mariage ne solutionne pas, il ne met qu'en relief la façon dont tu as appris ou pas appris à être en relation. Donc nous avons besoin d'apprendre à être en relation. Quelque chose n'était pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La chose qui n'était pas bonne en Éden, c'était la solitude d'Adam. Et c'est pourquoi la première dimension d'une vie réussie, premier commandement, tu aimeras ton Dieu avec passion, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Mais la deuxième dimension d'une vie réussie, c'est aime ton prochain, ou comme Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. une église en bonne santé, une vie en bonne santé, va se développer dans l'amour de Dieu comme une église qui est comme une fiancée amoureuse, mais qui est aussi comme une famille chaleureuse. Sans quoi, nous avons beau chanter plus fort et consulter plus fort et jeûner plus fort, jamais les choses de Dieu ne combleront en nous ce que Lui a créé pour être comblé par nos semblables. Et nous ne pourrons pas remplacer cela par quoi que ce soit d'autre. Nous avons besoin de Dieu, mais nous avons besoin les uns des autres de la même façon. C'est pourquoi nous voulons créer ces structures comme des GPS, pas pour passer des soirées vides et ennuyeuses, mais pour apprendre à être des personnes en relation les uns avec les autres. Donc une vie chrétienne complète comprend aussi une dimension relationnelle forte. Devenir chrétien, c'est s'attacher à Dieu par le moyen de la foi et s'attacher aux autres par le moyen des relations. 2 Corinthiens 8:5 nous dit qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu, puis à nous par la volonté de Dieu. Voyez-vous comment ce texte nous montre que c'est la volonté de Dieu que nous dépendions de Lui et de certaines personnes. Il est notre source, mais en même temps, il choisit que cette source soit comblée par nos connexions avec certaines personnes. Et il y a des personnes qui, par la volonté de Dieu, vont être ta plénitude. Il y a des personnes, si tu les invites à être attachées à toi et tu t'attaches à eux, tu vas être comblé par la volonté de Dieu. Il y a des personnes, si tu les évites, non pas si tu les invites, mais si tu les évites, jamais tu seras plein de ce que Dieu veut te donner. Parce que sa plénitude passe aussi par nos relations. Et c'est pourquoi nous allons voir ce matin comment avoir des relations saines. Quels sont les éléments pour développer de bonnes relations? On va en voir 5 et la semaine prochaine, 5. Le premier, c'est la réciprocité, l'ouverture les uns aux autres. Comme nous sommes créés relationnels, Dieu lui-même est relationnel, Père, Fils, Saint-Esprit, fait pour être connecté avec ses semblables, Père avec Fils, avec Saint-Esprit. Nous, il nous a créés à son image, fait pour être connectés dans la réciprocité. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin des relations. C'est un besoin vital pour nous. Un médecin dit que c'est un fait médical que vous vivez plus longtemps et mieux avec des amis. Aujourd'hui, toute la communauté médicale est d'accord pour dire que la solitude affaiblit le système immunitaire. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des personnes de plus en plus nombreuses dans notre société qui se sentent seules, coupées des autres et qui souffrent d'isolement. Et avec cela, arrivent des troubles de santé, des troubles de santé mentale ou physique, l'ennui, l'angoisse, le sentiment d'inutilité arrivent. Et face à cela, eh bien, nous sommes dans une société qui a un semblant de relation. Les relations par... vous dites SMS ici ou non? Les textos, là, OK? Les relations par texto. Tout c'est drôle. Si on imagine, il y a 30 ans, quand les gens se souhaitaient la bonne année, en tout cas, je parle en France, bien, on allait visiter le voisin, on amenait un petit quelque chose, on passait un moment, il y avait un contact humain. Aujourd'hui, tu fais ça par SMS. Bonne année. Bah! Et le pire, c'est que tu envoies ça à tout le carnet d'adresses. Il y a 300 personnes. Tu fais envoyer à tout le carnet. Brrr, bonne année 2009. Brrr, tu reçois ça. Tu dis, mais est-ce qu'au moins, au moment où il a appuyé sur le bouton, il a pensé à moi, à mon nom, ou peut-être juste, il ne se rappelle même plus qui je suis, mais je fais partie du carnet. Et c'est ce niveau de relation dans un monde de communication qui nous amène à trouver que plus nous sommes une société de communication, moins la communication devient de qualité humaine. Nous perdons de ce côté satisfaisant à l'ère de la communication. Jamais la solitude n'a été aussi grande. Plus nous sommes une société de communication, moins la communication devient humaine. Les amis Facebook, vous connaissez? Hein? Est-ce que je peux devenir... un tel a demandé à devenir votre ami. Ah, je ne savais pas, il ne me l'a jamais dit. Hein? Puis, moi, je viens à quelqu'un dire, ajoute-moi comme ton ami. Puis, c'est très facile, tu as juste à cliquer, accepter ou ignorer. Et c'est tout. Ça n'engage pas beaucoup. Mais plus nous avons un niveau superficiel de relation, d'imitation de relation dans la communication, moins nous apprenons à entrer véritablement en relation. Nous avons besoin de vivre une vraie réciprocité, un vrai échange. J'ai rien contre Facebook, ça c'est ma page Facebook. J'ai soi-disant 77 amis actuellement sur Facebook. Il y en a que j'ai ignoré. Il y en a. Je dis, j'ai jamais vu cette personne. J'ai jamais entendu son nom. D'où il me demande d'être mon ami, soi-disant. Mais tu sais, un ami Facebook, c'est pas d'ami du tout. C'est juste. Et alors, c'est pourquoi de plus en plus, plus nous avons des amis dans ce monde de communication, plus nous avons l'illusion d'avoir des amis. Jésus nous appelle à une autre réalité, plus humaine, plus réelle, plus chaleureuse, plus face à face, plus de vraies paroles. Jamais la technologie ne pourra remplacer la chaleur humaine, les paroles authentiques et personnelles. Le raz-de-marée d'informations électroniques instantanées et planétaires isole les individus de plus en plus. Le mot du Nouveau Testament qui nous parle de cette vie les uns les autres, c'est le mot « Alléluia ». Et j'aime ce mot parce qu'il me fait penser à « Alléluia ». Si on devait résumer le Nouveau Testament ou l'Écriture, on la résumerait en disant « Alléluia, Dieu soit loué, j'aime mon Dieu » et « Alléluia les uns les autres ». Avec deux mots, tu as fait le tour de la Bible. « Alléluia » et « Alléluia les uns les autres ». 60 fois, le mot « Alléluia » est employé dans le Nouveau Testament, 10 fois seulement le mot « pasteur ». Ça veut dire que la Bible ne dit pas « pasteur, priez pour moi », elle dit « priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». Elle ne dit pas « pasteur, c'est à toi que je veux confesser mes péchés », mais confessez vos péchés les uns aux autres. Elle ne dit pas « pasteur, tu n'étais pas là pour me serrer la main », accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Si nous déplaçons aujourd'hui le mot « pasteur » vers le mot « les uns les autres », nous allons devenir l'Église que Jésus veut, qui est une Église de réciprocité, avoir moins un esprit clérical dans lequel tout doit passer par le prêtre, le pasteur, le clergé, le super-homme de Dieu, la super-femme de Dieu. Non, nous allons apprendre que la vie est en Jésus et qu'il aime la répandre dans le corps avec les personnes avec qui nous sommes entourés. Ce mot « les uns les autres ». Dieu a prévu de nous guérir les uns par les autres pour que les membres aient soin, également soin les uns les autres. Cette dimension-là de la réciprocité, cette dimension dans laquelle notre épanouissement émotionnel, intellectuel, dépend aussi, et spirituel, dépend aussi des gens que nous fréquentons. C'est pour ça que je vous dis, j'aimerais vous présenter mes amis. J'aime fréquenter mes amis. Parce que quand je fréquente mes amis, si jamais c'est Jésus qui vous appelle au cellulaire, dites-lui combien je l'aime. Et quand je vous présente, fréquenter mes amis m'élève au niveau de mes amis. Vous savez, vous allez toujours vivre dans votre vie au niveau des gens que vous fréquentez. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais il est bon pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que la vie vient. La vie vient toujours par le mélange. Tu sais quoi? Il y a un côté, entre guillemets, cannibale, pas cannibale, mais un peu vampire en nous. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un et tu te nourris de la personne avec qui tu es. Nous sommes beaucoup plus perméables que nous l'imaginons. C'est pourquoi, veillons bien, qui nous allons fréquenter, n'est-ce pas? Parce que la personne que tu fréquentes, ça peut être extraordinaire ou extraordinairement dangereux. Nous sommes influencés par les amis que nous fréquentons. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Également, dans cette dimension-là, nous avons besoin d'apprendre à ce que la réciprocité, ce n'est pas une relation hiérarchique. Il n'y a pas d'intimidation dedans. Si dans la fraternité, il y a quelque chose d'intimidant. Une façon d'intimider, c'est qu'il y en a un qui a les informations et les autres ne les ont pas. C'est pour ça que je crois que dans les GPS, tout le monde doit être sur un même, ayant les mêmes outils pour commencer, comme je partageais à Jean hier. Parce que chacun doit avoir les mêmes chances d'être enrichissant pour les autres, la même information. On part sur un pied d'égalité. Sinon, on reproduit, il y a un chef et puis il y a autour. Certains viennent écouter en modèle réduit, vivre la même chose que ce qu'on vit le dimanche avec moins de qualité. Ce n'est pas ça les GPS, c'est une vraie réciprocité. Sinon, il y a cette intimidation. Alors, une relation basée sur l'intimidation n'est pas réciproque. Même si c'est très paisible, je me souviens de cette fête d'un jeune couple. Oh, un jeune couple, ils ont été jeunes, mais là ils fêtaient leurs 50 ans de mariage. Un jeune couple, semble-t-il, pendant très longtemps, qui s'aimait. Tout le village parlait d'eux parce que Ils n'avaient jamais de dispute. Ça semblait vraiment super. Et alors, le jour des 50 ans, on a dit, mais pourquoi? Comment vous faites 50 ans sans dispute? Et le monsieur a dit, ça tient de notre voyage de noces. On est parti en voyage de noces, puis on a décidé de faire le Grand Canyon. On est monté chacun sur un âne. Puis quand on a commencé à avancer, au bout de 500 mètres, l'âne sur lequel ma jeune épouse était a fléchi, il est tombé. Elle l'a regardé tranquillement, puis elle a dit « première fois ». Puis ils ont continué, puis l'âne, 500 mètres après, a fléchi, il est tombé. Elle l'a regardé très tranquillement dans les yeux et lui a dit « deuxième fois ». Puis on a continué, et un kilomètre après, l'âne s'est affalé. Tranquillement, elle a sorti son revolver, elle a mis une balle dans la tête de l'âne, il est mort. Alors je me suis fâché, et je lui ai dit « mais c'est inadmissible, cette pauvre bête, c'est pas comme ça qu'on doit la traiter, etc. » Elle m'a regardé tranquillement et elle m'a dit « première fois ». Depuis, nous n'avons jamais eu de dispute à la maison. Mais ça, c'est une paix basée sur l'intimidation. Ce n'est pas ça, la relation saine dont je parle. C'est une relation beaucoup plus réciproque, beaucoup plus libre, beaucoup plus vivante. Donc je voudrais nous encourager à être accueillants en tant que communauté. Quand nous allons avoir ces célébrations des vies changées, quand nous avons dimanche après dimanche, nous sommes là, l'accueil n'est pas juste le rôle du service 5 étoiles. Je ne sais pas si oui, Jean est là. Et est-ce que les personnes du service 5 étoiles, service d'accueil, pourriez-vous lever? Moi, je trouve qu'on devrait les remercier pour l'accueil magnifique, etc. Elle m'a regardé tranquille. Tous ceux qui sont au service à l'accueil, vraiment, on veut vous remercier. Vous faites un très beau travail. Très beau travail de qualité. Un jour, on aimerait avoir une interview avec Sylvain qui dirige ce service parce que c'est tellement précieux, c'est tellement sécurisant. Si vous saviez combien ce service-là est efficace, sécurisant, quoi qu'il se passe, c'est précieux. Mais ce n'est pas juste leur rôle d'accueillir, c'est notre rôle à chacun. Quand quelqu'un arrive, d'avoir cet état d'esprit qui vient chercher à connaître, poser une question, le manque d'ouverture, le manque de désir d'aller, parfois la timidité tout simplement, le fait de ne pas savoir faire, nous empêche d'être accueillants. C'est pour ça que parfois on va apprendre, et c'est ce qu'on va faire dans ces GPS, dans ces 3 premières semaines, on va juste apprendre à se poser des questions pour se laisser connaître et pour chercher à connaître l'autre. On le fait comme une pratique dans les GPS, comme un entraînement qui fait qu'on pourra le faire de mieux en mieux dans la salle d'église le dimanche matin. On va se dire, c'est quoi la chose la plus drôle qui t'est arrivée en 2008, même si elle est embarrassante? C'est quoi la chose dont tu es le plus fier que tu as accompli depuis un an? Si jamais Dieu voulait te recréer, qu'est-ce que tu aimerais qu'il refasse de la même façon en toi? Tout ce genre de questions, on va se les poser dans nos GPS. C'est ça ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que s'aimer, c'est chercher à connaître l'autre et c'est se laisser connaître par l'autre. Et plus nous allons apprendre à le faire comme un entraînement, comme une pratique, plus nous allons devenir un lieu de convivialité. Je rêve d'une église dont le hall ressemble à ça. Ça veut dire des tables, un café, des petits films qui présentent le sens de la vie, qui peuvent présenter la vision de l'église. Un lieu vraiment de convivialité, un lieu où on ne rentre pas juste en train de trembler, un lieu Alléluia avant d'entrer dans le lieu Alléluia. Toujours ces deux moments dans lesquels il y a cette connexion les uns avec les autres et la connexion avec Dieu. Deuxième chose, c'est la vulnérabilité. Deuxième clé, la vulnérabilité qui nous permet d'ouvrir les cœurs. Certains disent, s'ils découvrent mes faiblesses, ils ne vont pas m'aimer. Faux. S'ils découvrent tes faiblesses, ils vont juste apprécier l'honnêteté de reconnaître ce qu'ils ont déjà remarqué. On a du mal à vraiment tout cacher, mais ils vont juste apprécier l'honnêteté que tu as de reconnaître ce qu'ils ont déjà commencé à pas mal remarquer. Ils n'ont pas encore dit, mais ils l'ont vu. Alors c'est pourquoi la vulnérabilité et l'ouverture, même quand on commence à montrer nos faiblesses, au lieu de repousser les gens, ça les attire, ça les attire. Nous gagnons l'écoute des autres lorsqu'ils savent que nous sommes authentiques et vrais et tout simples. Nous portons ce grand trésor, Alléluia, dans des vases de terre, Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que c'est un trésor dans les vases de terre que ce serait un prétexte pour pécher, mais c'est une raison suffisante pour ne pas cacher ce que nous sommes. Celui qui cache ses erreurs ne prospère point, nous dit la Bible. Celui qui les avoue et les délaisse obtient grâce, miséricorde. C'est pourquoi apprenons à avoir cette ouverture. Et c'est pour ça que dans nos GPS, nous apprenons à admettre aussi nos faiblesses, nos insuffisances avec Ça veut dire, vient toujours de côté humilité, humour, humus, qui vient de la terre. L'humour sur soi, savoir sourire de soi, c'est une démonstration d'humilité. Chaque fois que nous voulons montrer combien nous sommes sans insuffisance, sans faille et parfait, tout le monde rigole parce que tout le monde sait, ça ne peut pas être vrai, t'es exactement comme moi. Donc je sais très bien ce dont je peux être capable, je sais très bien ce dont tu peux être capable. Alors nous admettons que nous apprenons à ne pas parler seulement de nos exploits et de nos réussites. Quand nous parlons que de nos exploits et de nos réussites, ça engendre la compétition, les jalousies ou les complexes. On a l'impression que ça, c'est un surhomme. Mais si nous admettons nos faiblesses, cela libère la compassion et l'acceptation. À nous de décider si nous voulons impressionner les autres ou si nous voulons nous attacher les uns aux autres. Voilà ce que nous allons faire dans les GPS. Nous allons parler sur le terrain de la vérité. Non pas savoir, alors, qu'est-ce que Paul a dit sur la vie de prière, comment Luther priait. Non. Toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es endormi dans ton culte personnel? Quand est-ce que tu as déjà lu la Bible la semaine passée et tu ne sais même plus à la fin ce que tu as lu à l'endroit ou à l'envers la Bible, tellement que tu t'es mal réveillé. Et puis c'est quand tu t'es régalé dedans, les bonnes choses et les moins bonnes, mais de faire cela sur le terrain de la vie pratique. Parce que là, nous allons nous connecter et nous partons de là où nous sommes, de nos faiblesses, de nos insuffisances et nous montons. Une insuffisance n'est pas toujours un péché, parfois c'est juste un défaut de caractère. Un manque de maturité, un manque de discipline, un domaine où on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait et on peut aller plus loin. Mais nous, en faisant cela, nous apprenons à nous livrer les uns aux autres. Je me souviens de mon ami Richard, qui a une fille qui s'appelle Maggie et deux frères. Ça, c'était le drame de la vie de Maggie. Maggie était la petite sœur, elle avait deux grands frères. Et Maggie, quand elle était préadolescente, à l'âge de 11-12 ans, elle avait le petit carnet et secret de son cœur. Elle écrivait dedans tous ses petits secrets du cœur. Et elle avait acheté un petit cadenas et elle avait fermé ça. Mais pourquoi elle avait acheté le petit cadenas pour le fermer? Parce qu'un jour, alors qu'elle marchait dans la maison, elle a entendu ses frères dire « Oh Maggie, elle trouve que Laurent, il a des jolis yeux bleus. Comment tu sais? J'ai regardé dans ton carnet. » Et Maggie était tellement fâchée, tellement blessée. Parce qu'elle, on était venu simplement, sans son autorisation, regarder dans son intimité. Alors elle a pris un petit cadenas, puis elle l'a fermé. Elle a mis la clé autour de son cou. Et désormais, elle n'allait plus donner les clés de son cœur à personne. En tout cas pas à ses frères, parce qu'eux allaient se moquer. Et c'est vrai que parfois, se livrer, s'ouvrir, c'est prendre un risque. Mais nous avons le choix du risque à prendre. Soit nous allons prendre un risque de nous rendre vulnérables, et que des gens pourraient se moquer, pourraient ne pas apprécier, pourraient nous trahir. Soit nous allons prendre le risque de rester seuls, de jouer la comédie et de ne pas être remplis. C'est pourquoi, c'est vrai que c'est un risque, les relations, mais ça en vaut le coup. C'est pourquoi c'est le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ouvrez-vous les uns devant les autres. Oui, il y a un risque, mais nous allons apprendre. Puisque c'est un risque et que c'est fragile ce qu'on met là. C'est un cœur, et un cœur humain, c'est fragile. Ce n'est pas une boîte de carton ou une boîte de conserve. C'est fragile, c'est le cœur que je mets là en jeu. Donc dans nos GPS, nous allons apprendre le respect les uns des autres, la compréhension, l'écoute attentive, ne pas nous trahir les uns les autres, ne pas se moquer, mais développer cette appréciation les uns devant les autres. Parce que je préfère prendre le risque de la relation que le risque de la solitude ou le risque de jouer la comédie et de ne jamais m'ouvrir devant les autres. D'ailleurs, en parlant de jouer la comédie, on va arriver à la troisième clé, la vérité. La vérité met de la lumière dans les relations, elle allume les relations. La vérité, c'est ce dont nous avons absolument besoin pour des relations de qualité. Un jour, dans Luc chapitre 12, le premier verset, il nous est dit que les gens s'étaient rassemblés en tellement grand nombre, des myriades, dit le texte, c'est-à-dire des dizaines de milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Là, ce jour-là, ils avaient fait carton plein, la prairie était remplie de monde. Les disciples ont dû se dire, là Jésus, il va leur sortir le truc le plus important. À mon avis, il va leur faire un tour de magie divine pour montrer que c'est lui le Messie. Il va leur faire marcher sur les eaux, tout en chassant la tempête et en multipliant le pain en arrière. Il va leur faire un truc. Et alors, à chaque pas, il y a des paralytiques qui vont se... Il va leur faire un truc. Fait que, à ton avis, il va faire quoi? Alors, tout le monde est là en train de dire, là, il a l'attention de tout le pays. Ou alors, il va leur faire un exposé théologique pour prouver combien c'est lui, le Messie, qui a annoncé de la Genèse jusqu'à son temps, que tout le monde va être pantois et puis va dire, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En tout cas, il a l'attention d'une foule incroyable. De quoi Jésus va parler? Jésus dit, gardez-vous de l'hypocrisie. Non. Dis-nous un truc important. Là, t'as loupé le punch, t'as loupé l'occasion. Tout le monde est là. Ne manque pas une telle opportunité. Dis-nous la chose la plus importante. T'as jamais eu une telle foule. Jésus dit, c'est parce que je n'ai jamais eu une telle foule que je dis la chose la plus importante. L'hypocrisie est en abomination à Dieu. Dieu aime la vérité, l'authenticité, la simplicité. What you see is what you get. Dieu aime ce genre de choses-là. Parce qu'il dit, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Pas d'hypocrisie. Le mot hypocrisie vient du mot grec hypocritos, qui était un comédien masqué. Un jour, l'apôtre Pierre a eu besoin que Paul lui enlève son masque. Pierre, un jour, était, c'est raconté dans Galates 2, versets 11 à 14, Pierre était devenu une autorité à Jérusalem, avec Jacques, avec plein de gens, une des colonnes de l'Église. Et voilà que Pierre va voir à Antioche comment ça se passe. Et là, ils lui font une omelette au bacon. Et il mange, et il trouve ça bon. Et puis il goûte le jambon, la saucisse. Ah, puis finalement, il mange ça, il trouve ça bon. Puis d'un coup, alors qu'il a la bouche pleine, on dit, « Oh, il y a Jacques qui arrive avec les frères de... » Il crache tout. Vite, il court chercher de la menthe fraîche, parce que ça n'existait pas, les petits bonbons à la menthe en ce temps-là. Ce n'était pas encore caché. Il se nourrit de menthe fraîche. Il faut que mon haleine change, qu'on ne sente pas le bacon, pas de viande fumée. Il faut absolument que... Et là-dessus, Paul le regarde et il dit, « Pierre, attendant que Jacques s'approche, j'ai trouvé que tu es allé fort sur le jambon. Quel appétit! Je ne savais pas que tu aimais le bacon à ce point, Pierre. » Pierre savait plus se mettre parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'est paraître religieusement correct. Et ça, c'est le gros piège qui nous guette tout le temps. Paraître religieusement correct. Et donc, Pierre a eu besoin ici d'ôter son masque. Et peut-être, je voudrais vous réfléchir. Quand, vous aider à réfléchir, quand avez-vous eu besoin? Simplement que la vérité vienne vous aider à ne pas vivre masqué. Quand avez-vous été tenté déjà? Et remarquez-le, quand êtes-vous tenté d'essayer de faire meilleure figure que ce que vous êtes réellement? Dieu aime les cœurs. Dieu ne nous attend pas parfait, mais intègre. Ça veut dire vrai, complètement vrai. Dieu a aimé l'intégrité de Job, alors que les trois religieusement corrects de ses amis ont été désapprouvés. La franchise nous permet de vivre l'amour sans hypocrisie. Renoncer au mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Quand Paul nous dit ça, il est en train de nous dire que lorsque nous laissons s'infiltrer le mensonge dans nos relations, nous donnons accès au père du mensonge dans le corps. C'est pour ça qu'il nous dit, renoncez au mensonge, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voulez dire, quel rapport? Attention, comme nous sommes un corps, nous sommes membres les uns des autres. Celui qui ment dans la relation humaine va laisser accès au père du mensonge qui va commencer à fausser les relations humaines. Très important. Combien le Seigneur veut que nous parlions la vérité dans l'amour, parce que c'est comme cela que nous grandissons. La vérité n'a pas besoin d'être violente, n'a pas besoin d'être cassante, tranchante. Elle a juste besoin d'être exprimée avec grâce, avec amour, avec sensibilité, mais jamais cachée, jamais cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de recevoir de la part de quelqu'un des paroles d'affection, de soutien, d'admiration, etc. Puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, cette même personne vous envoie un message de haine et de rupture, « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer? Il s'est passé quoi dans ton film? T'as fumé quoi hier soir pour que ça arrive, ce genre de choses-là? Hein? Moi, j'ai encore mon petit côté ex-marxiste qui reste de temps en temps. Je crois que la religion est parfois l'opium du peuple, et certains, je crois, continuent à fumer quelques pétards. De religiosité, avoir des révélations qui me semblent venir de l'opium du peuple, parfois. Donc, parfois, qu'est-ce qui t'arrive là encore? T'as fumé ton pétard d'opium du peuple, et qu'est-ce que t'as maintenant encore avec cette soi-disant réaction? Et puis, c'est simplement, la personne avait laissé quelque chose de caché dans notre relation. C'est très dangereux. Mieux vaut une réprimande ouverte que quelque chose qui reste caché dans une amitié. Pour moi, un vrai ami a le degré de sécurité nécessaire pour qu'on construise une relation dans laquelle on peut se parler vrai. Il n'y a pas besoin de se fâcher si on se parle vrai. On est délicat, on dit, tu sais, je suis quelqu'un de sensible, fragile, tu me dis tout, mais avec gentillesse, avec grâce, mais on se parle la vérité. Et la relation va grandir comme une clé. C'est ce que nous allons essayer de faire aussi dans nos GPS. Mieux vaut une réprimande dans une relation franche que de laisser une chose cachée dans une amitié. La vérité, nous avons besoin de laisser la lumière venir. Moi, je crois que moins il y a de secrets dans les relations, dans une famille, dans une église, dans un groupe, dans une communauté, plus la lumière et la santé sont là. Les secrets secrètent. Les secrets secrètent toujours quelque chose. Et quand un secret secrète, il secrète quelque chose d'occulte, de sombre, parce que ces choses-là se font en secret. Le fruit de la lumière, c'est la vérité. Le fruit du secret, le secret secrète de l'ombre. Il secrète des non-dits, ou plutôt un langage parallèle, donc un paradis, un langage parallèle, des non-dits, Et quand il y a des non-dits dans les secrets de famille, tous les psychologues s'accordent pour dire que les secrets de famille vont générer des mystères, une atmosphère de suspicion. On essaye de savoir qu'est-ce qui est caché derrière. On veut lire entre les lignes ce qui n'est pas dit. Et on crée un monde de sous-entendus, donc de paradis malsains. Alors moins il y a de secrets, plus il y a de santé relationnelle. Certains vont dire, oui, mais et les confidences? Que tu t'appelles Patrice? Je ne me trompe pas. Voilà, quelqu'un vient me dire quelque chose sur Patrice. Toi, c'est Pierre ou... Oui? Patrick, pardon. Patrick vient me dire quelque chose sur Patrice. Il me dit, je ne veux surtout pas que tu lui dises. Quand il saute et qu'il danse, là, comme il fait pendant le culte, il est toujours à contre-temps, mais je ne lui dirai jamais. Parce que... c'est pas vrai, Patrice, tu n'es pas à contre-temps, mais admettons. Alors ça me gêne parce que moi c'est un trou sur ma guitare quand je le vois. Comment je dois réagir à ça? Va le lui dire. Non, mais il va se vexer, etc. Mais je voudrais te le dire, mais moi je suis ni une partie du problème, ni une partie de la solution. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je dois dire à Patrick, écoute Patrick, je vais porter ce sujet de douleur avec toi pendant 3 semaines. Et d'ici 3 semaines, si tu veux, je viens avec toi trouver Patrice, comme ça si jamais... t'as peur qu'il réagisse mal avec sa queue de cheval, que t'en mettes un coup. Je suis là pour essayer de parer. Mais je te promets une chose, Patrick, si dans 3 semaines, t'as rien dit, je vais lui dire moi-même. Patrick, pense à de toi, j'aimerais que tu ailles le trouver pour régler cette situation-là. Tu vas faire ça? Tu vas trahir Patrick? Non, je ne trahis pas. Je le préviens à l'avance. Je le trahis si je vais le dire à Patrick sans le lui dire. Là, c'est la trahison. Mais si je le lui dis... moi, je ne suis pas dans le secret, je suis dans la lumière. Je crois qu'il faudrait que tu le lui dises. Oui, mais je n'y arrive pas, ok? Je vais te donner 3 semaines, je suis prêt à aller avec toi, je suis prêt à prier pour toi. Est-ce que, si tu veux qu'on fasse un jeûne et prière tellement tu en as peur, on va faire. Mais il va falloir faire une démarche directe. Et si ça ne se fait pas, je te promets une chose, dans 3 semaines, je lui dis tout. D'ici là, tu peux avoir confiance, rien ne sortira de ma bouche. En faisant cela, je garde la confiance, mais en même temps, je responsabilise pour ne pas permettre que des nids de vipères se forment dans les relations humaines. Il faut qu'on mette dehors de toutes les églises en francophonie tous les petits nids de vipères qui ont été entretenus, des confidences les uns sur les autres, des petits secrets, des faux paradis, des choses qui... ah bon, ça veut dire ça, on cherche à lire entre les lignes. Mais la vérité est du domaine de la lumière. Si nous marchons dans la lumière, en se parlant les uns aux autres, comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute faute, de toute mauvaise interprétation, de toute erreur, de tout jugement, de toute faiblesse que nous pouvons avoir parce que nous marchons dans la lumière. Que l'Église sans frontières marche dans la lumière et que nos GPS marchent dans la lumière. Quatrième clé, la compréhension. La compréhension, c'est prendre en compte le point de vue de l'autre. Compréhension, préhension, vient du mot prendre. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte dans ce cas-là, c'est juste l'idée de « avec ». Donc, prendre avec moi le point de vue de l'autre. Élargir mon point de vue en me mettant avec l'autre. Comprendre, c'est prendre avec. Je prends avec ton point de vue et je vais voir des choses que c'est comme ça que tu le voyais, je n'avais pas vu. C'est pourquoi, messieurs ou mesdames qui êtes mariés, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans votre couple, je vais vous donner une phrase miracle qui ralentit l'explosion de tout conflit. Aide-moi à comprendre. Ça, c'est une belle phrase. Aide-moi à comprendre. Parce que chaque fois que tu vas dire, ce que tu as fait là, je ne comprends pas. Quand tu dis, je ne comprends pas, tu mets un terme à la conversation en créant une coupure. Je ne comprends pas. Quand tu dis, aide-moi à comprendre, tu ouvres une négociation. Tu ouvres une porte à la négociation. Aide-moi à comprendre. Il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce que tu voudrais help me understand? Tu peux m'aider à comprendre ce qui se passe là, parce que j'ai besoin de ton point de vue. Je ne comprends pas pourquoi tu as réagi comme ça, pourquoi tu as dit cela. Aide-moi à comprendre. Et il y a beaucoup de conflits qui vont être évités en pratiquant la vérification. La vérification, c'est une clé. Quand tu as dit ceci ou tu as fait cela, est-ce que ça voulait dire que... Parce que moi, tout de suite, j'ai interprété. Sinon, on est piégé dans nos pensées. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Combien de fois on imagine, sur la base de ce qu'on a entendu, sur la base de ce qu'on a vu, on commence à déduire. Hop, ça part dans la tête. C'est parti. Radio Diabolo s'est mise en FM et on commence à écouter ça. Puis toutes les paroles commencent à imaginer et à partir sur toutes sortes de choses. Mais apprenons à vérifier. Aide-moi à comprendre. Tout ce que tu entends ou tout ce que tu vois n'est pas forcément vrai.
This has a fractured fibula, given a mild sedative. So he can be able to go on tomorrow.
Daddy's going to be so excited.
Viens voir son papa, il va être tellement content de te voir. Il y a une mouche qui est là.
That killed him.
Ça l'a tué. Ne jugez pas trop vite. Pourtant, elle pourrait dire, je l'ai entendu dire, ça l'a tué. Non, ça a juste tué la mouche. Ton papa, il dort encore. Il est encore vivant. Tout ce que tu entends n'est pas forcément vrai. Si tu fais la vérification, tu peux dire, est-ce que quand tu as dit ça l'a tué, tu parles de mon papa? Et là, tu seras rassuré. Tout ce que tu vois n'est pas forcément vrai. Elle peut aller voir sa copine et dire, je t'assure, je l'ai vu avec une mare de sang par terre, le grand couteau de cuisine, mon chat dans les mains, il voulait le tuer. Tout ce que tu vois n'est pas forcément vrai. Maintenant, si tu décodes et tu viens vérifier au lieu d'exploser, aide-moi à comprendre ce que tu fais avec le chat et le couteau dans la main, avec cette mare de sang. Non, ma chérie, je voulais préparer un repas romantique. J'étais juste en train de faire la sauce spaghetti quand le chat est monté, il l'a renversé. Pendant ce temps, je coupais la viande. Alors c'est pour ça que j'ai le couteau ici et j'ai ramassé le chat pour pas qu'il salisse toute la maison. Je t'aime, je veux qu'on passe une bonne soirée. D'accord? Help me understand. Souvenez-vous de ça. Aide-moi à comprendre. Aide-moi. Si vous êtes marié que votre conjoint est à côté de vous, dites-le lui. Juste pour prendre l'habitude, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Je voudrais que cette phrase, elle puisse être entendue souvent dans nos maisons ces prochains temps. Puis, le pardon et la miséricorde. Comme l'humanité est bâtie sur, et c'est notre cinquième et dernière clé, après on va prier. L'humanité est bâtie sur une fraternité brisée, puisque les deux premiers frères se sont entretués. Caïn a tué Abel. Depuis, nous sommes toujours en train de devoir ajuster nos relations fraternelles. Ce n'est pas facile. Nous avons besoin d'un pardon continuel. C'est Pierre qui vient voir Jésus pour dire, ce coup-ci, j'en ai marre. Combien de fois il faut que je pardonne? Jusqu'à 7 fois dans la même journée? Non, non, pas 7 fois. 70 fois, 7 fois. Ça veut dire que c'est un pardon continuel. Pierre, tu dois entretenir un refrain dans ton cœur qui est un refrain de pardon et de miséricorde, parce qu'il est impossible qu'il n'y ait pas des occasions de chute. Si vous avez été blessé dans l'Église ou dans les relations, bienvenue sur Terre, nous sommes arrivés, c'est ici que nous vivons. C'est là, vous êtes, c'est bon, on est arrivé, tout le monde descend. Hein? Ça veut dire que vous êtes sur Terre. Si vous avez été blessé dans l'Église, c'est très probable que cette Église se trouve sur Terre. Sinon, si vous êtes encore dans les lieux célestes où ça plane et où ça, s'il n'y a jamais de blessure, on va juste prier pour une confiscation des pétards d'opium du peuple, parce qu'un jour vous allez atterrir et ce jour-là, vous allez voir le côté de l'humanité de l'Église. Et c'est au milieu de cette humanité que Jésus nous dit, il est impossible que nous ne soyons pas offensés. Il est impossible. Mais l'amour, la définition de l'amour, c'est surmonter les offenses. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, c'est normal. Dans chaque GPS, à un moment donné, il y en a un qui va toujours trop parler. Il y en a un qui va toujours pas assez parler. Et il y en a un qui va toujours être en retard. Il y en a un qui va toujours oublier de venir et oublier de prévenir. On va dire, s'il te plaît, apprends à le faire. Mais on a quelques mois pour apprendre. D'ici le mois de mai, il aura appris à prévenir. Et parce qu'on va apprendre à surmonter et ensemble à céder à faire la volonté de Dieu. Et c'est comme cela que nous grandissons dans la miséricorde. Mais c'est la miséricorde dont nous avons besoin. Combien de fois il est impossible qu'il n'y ait pas des offenses? Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois par jour. C'est vraiment long, 7 fois. Hein? Oh non, c'est vraiment terrible de faire. C'est dire que c'est ça la communion fraternelle, hein? Mais oui, bienvenue sur Terre, nous sommes dans l'Église de Jésus. Le manque de pardon peut nous paralyser. Nous avons besoin de vivre ce pardon continuel. Et ce matin, s'il y a encore dans ton cœur un manque de pardon à l'égard de qui que ce soit, alors que nous allons prier, je veux t'inviter vraiment à remettre ton cœur devant Dieu. Et si tu dois faire une démarche, va faire une démarche pas juste pour dire « j'ai eu des mauvaises pensées sur toi », tant mieux s'il ne le sait pas. Mais si tu as eu des mauvaises paroles, des mauvais actes, des retenues de cœur, va dire simplement, je te demande pardon parce que mon cœur s'est retenu de t'aimer. Pardon parce qu'il y a quelque chose en moi qui t'est retenu. Et j'ai été juste déçu à un moment donné, je crois que j'ai gardé cette amertume, je viens te demander pardon. Si vous cherchez un ami sans faute, vous resterez sans ami. Et une chose qui est dramatique, c'est que bien souvent quand quelqu'un nous a fait un peu de mal, un ennemi prend plus de place dans notre tête qu'un ami n'en a dans notre cœur. On n'arrête pas de penser à notre ennemi dans notre tête. Et là, c'est encore un changement. Nous voulons faire. Et c'est pourquoi les GPS vont nous y aider aussi. Je veux apprendre à fréquenter des amis, à penser à mes amis, à agir avec les amis. Cette semaine, dans le GPS, nous allons commencer le jeu des anges et des humains. Chacun va être un ange d'un autre et chacun va être l'humain qui va bénéficier du cadeau, de la prière, de l'attention de son ange. Ça va être un jeu merveilleux qui va nous apprendre à prendre soin les uns des autres parce que nous avons tellement besoin de grandir. Je veux faire le choix d'accorder plus de place à mes amis du GPS, à mes amis dans mon cœur et moins à mes ennemis dans ma tête. Plus de place à mes amis et moins à mes ennemis. Il nous a donné le ministère de la réconciliation et a mis en nous la paix.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.